Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Louis Pardinet.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Quatrième et dernier épisode de notre série consacrée à l'économie chinoise. Aujourd'hui, cap sur les nouvelles routes de la soie. Depuis 2013, Pékin déploie un gigantesque réseau de voies commerciales sur terre et sur mer qui relie entre autres l'Europe à l'Asie. L'objectif, hisser la Chine au premier rang mondial en termes de puissance globale et de rayonnement international d'ici à 2050. Ce sont les propres mots de Xi Jinping, le président chinois dont les ambitions suscitent la méfiance des pays occidentaux qui redoutent les velléités hégémoniques de Pékin. Alors ces nouvelles routes de la soie vont-elles transformer les équilibres mondiaux et asseoir définitivement la puissance économique de la Chine? C'est la question qui va nous intéresser aujourd'hui. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons arpenter les voies de ce réseau tentaculaire déployé par la Chine en compagnie d'Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, auteur de Soft ou Sharp Powers, la culture au service de la propagande et de la puissance chinoise aux éditions MKF, en compagnie également d'Emmanuel Véron, géographe, enseignant à l'école navale et membre de la Société de géographie. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'Écho, présentées par Arjuna Andrade, et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Emmanuel Véron et Emmanuel Linco.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour commencer, je voudrais vous entendre sur la thèse développée par le géographe François Gipoulou. Dans son dernier livre, il montre comment la Méditerranée au XIVe siècle permet de comprendre la mer de Chine du XXIe siècle. Alors que pensez-vous de ce parallèle? Est-ce que la mer de Chine, donc ce vaste espace qui va de la Corée du Nord à la Malaisie, constitue une Méditerranée asiatique, Emmanuel Linco?
Assurément, parce que si vous retournez la carte, vous constatez effectivement que c'est une mer fermée ou quasi, avec une sorte de barrière de corail, avec un espace fermé effectivement qui va du Japon en passant par Taïwan jusqu'aux Philippines et le monde indo-malais, et puis évidemment cet enjeu crucial que représente le détroit de Malacca, qui est à l'Asie ce que Suez est à l'Afrique. Et donc c'est aussi une Méditerranée au sens culturel, c'est-à-dire que nombre des pays de la périphérie de la Chine sont de culture chinoise évidemment. Et donc c'est une zone d'échange de tout temps, bien sûr.
On peut dire que la mer de Chine constitue historiquement l'aire d'influence de la Chine, Emmanuel Véron ?
Absolument. La mer de Chine, comme vous l'avez précisé, de la Corée, de la péninsule coréenne jusqu'à la partie insulaire sud-est asiatique, indonésienne, malaisienne, etc., représente véritablement un espace maritime qui, dans le temps long, est dominé par une sinité, par une forme de Chine ancienne, dès les Song, en fait, dès l'époque, avant les périodes Ming du 14e, 15e siècle que vous avez précisé, dès les Song, à travers des réseaux de marchands et l'établissement de réseaux commerciaux à travers différents produits.
Donc dès le 12e siècle ?
Dès le 12e siècle, voire avant, même le 9e, 10e siècle, dans les faits, l'époque Song, Tang, etc., qui va suivre.
Et quelle est alors la relation qui se crée depuis cette époque entre la Chine et ses voisins? Comment elle considère les pays qui l'entourent, Emmanuel Linco?
Déjà, traditionnellement, comme vient de le rappeler Emmanuel Véron, c'est une thalassocratie, ce que l'on a eu tendance à oublier pendant longtemps. Donc vraiment une puissance maritime avec une capacité de se projeter bien au-delà d'ailleurs de cette Méditerranée. Et ce très tôt, via les routes de la soie maritime, c'est-à-dire jusqu'au golfe arabo-persique. Et puis d'autre part, on le sait, ce sont des relations de suzerain à vassal, pour aller vite. Donc des relations tributaires. Donc dans l'imaginaire politique et culturel chinois, cet espace sinisé, une sorte de précaré, évidemment, et la Chine n'a jamais abandonné ses droits historiques, comme elle l'a rappelé, autour du contentieux qui la divise par rapport aux Philippines, mais on pourrait multiplier les exemples, les Spratleys, les Paracels, dans le sud de la mer dite de Chine, que seuls les Chinois appellent ainsi d'ailleurs, faut-il le rappeler. Et donc, il y a là clairement une tension avec ses voisins.
peut-être qu'il faut rappeler aussi, Emmanuel Véron, que la Chine s'est longtemps pensée comme le centre du monde, voire comme le tout du monde, ce qui explique peut-être aujourd'hui cette volonté expansionniste.
Absolument, la Chine se perçoit encore aujourd'hui, elle l'utilise de manière assez magistrale dans les relations internationales, comme étant le centre du monde, et le monde étant, dans le temps long de l'histoire chinoise, l'Asie. Et la Chine va trouver, l'Empire chinois trouvera des frontières diffuses à travers les pays actuels d'Asie du Sud-Est, qu'ils soient Vietnam, qu'ils soient Corée pour la partie Asie du Nord-Est, et également la partie Asie centrale à travers l'actuel Kazakhstan, etc., etc. Et donc on a cette prééminence chinoise de cet empire chinois massivement continental, avec une façade maritime qui correspond à la mer de Chine, dominée par des réseaux de marchands plutôt que l'aspect martial militaire.
Un dernier mot sur ce parallèle qu'on peut établir entre la Méditerranée et la mer de Chine. Est-ce qu'on peut parler d'une Mare Nostrum chinoise, dans le sens où est-ce que Pékin aurait aujourd'hui les velléités hégémoniques qu'avait Rome hier, Emmanuel Linco?
Oui, mais j'irai plus loin, et d'une manière pas très originale. Historiographiquement, notre grand prédécesseur fut Denis Lombard, qui était un disciple de Fernand Braudel, qui a écrit un livre extraordinaire dans les années 80, Le Carrefour javanais, et qui décrivait justement l'Asie du Sud-Est, qui est encore une fois une zone prioritaire pour les intérêts chinois, comme étant l'autre Asie centrale pour la Chine, parce que vous avez là en fait deux configurations assez proches. D'un côté, l'Asie centrale, des oasis entourées de déserts ou de montagnes, de l'autre, des archipels entourés par la mer. Et finalement, c'est dans ces deux espaces proches que la Chine aujourd'hui entend évoluer.
La Chine qui continue à affirmer en effet sa puissance et sa primauté en Asie du Sud-Est. C'est ce que nous explique Manu Bashkaran, le PDG de Centennial Group International, une entreprise de conseil.
Pour la Chine, c'est très clair. La Chine veut une nouvelle structure en Asie où les puissances moindres reconnaissent la domination de la Chine. Au bout du bout, eh bien, ce sont les intérêts chinois qui doivent prévaloir sur ceux des petits pays. Et en retour, la Chine apportera de l'assistance, elle ne fera pas montre d'ingérence, il n'y aura pas de colonisation. Mais au bout du compte, il faut accepter cette position de subordination des petits pays. C'est ça que les Chinois veulent. Évidemment, ils ne vont pas l'exprimer explicitement, mais c'est néanmoins leur désir.
Un extrait de l'émission Affaires étrangères de Christine Krent, diffusée le 6 mai 2017 sur France Culture. À quel moment commencent véritablement ces relations commerciales, les relations commerciales contemporaines entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, Emmanuel Linco? Les choses commencent à changer au tournant des années 90?
Oui, même avant, avec la politique initiée par Deng Xiaoping, le successeur de Mao Tse-tung. Pour une raison simple, c'est que déjà la Chine souscrit finalement à l'observation selon laquelle c'est une région de marché et donc d'opportunités économiques. Et donc aujourd'hui, si on se projette jusqu'à l'époque actuelle, la Chine a entretenu avec cette région, d'un point de vue des relations multilatérales, une relation privilégiée avec l'ASEAN, c'est-à-dire un marché d'un milliard et demi d'êtres humains.
De l'ASEAN, l'Association des Nations de l'Asie
Absolument.
Du Sud-Est.
Absolument, créée en pleine guerre froide, hein, en 67. Et donc, c'est une façon aussi, alors je pense qu'Emmanuel Véron va le dire autrement que moi, mais une façon de sécuriser aussi ses approvisionnements énergétique que d'établir une relation de proximité avec un certain nombre de ces États, et tout particulièrement pour des raisons historiques, notamment le Cambodge.
En l'occurrence, Emmanuel Véron, l'ASEAN a mis un petit peu de temps à accepter cette relation commerciale. Il y avait une méfiance de la part de certains pays.
Oui, tout à fait. L'ASEAN, donc, comme le rappelait Emmanuel Linco, a été créé en pleine période de système international bipolaire, de guerre froide en 1967, et a mis un petit peu de temps à intégrer le géant voisin chinois dans ses mécanismes et a dû adapter ses mécanismes multilatéraux à la prééminence chinoise, y compris en matière économique, financière. Ce sur quoi la Chine va pouvoir s'appuyer, c'est son importante diaspora dans l'ensemble de ces pays, que ce soit le Cambodge, les Philippines, le Vietnam, et également les réseaux politiques et les réseaux d'affaires.
Et est-ce qu'il y a aussi une volonté de développer davantage ces provinces de l'Ouest pour la Chine, des provinces qui sont plus proches géographiquement de certains pays d'Asie du Sud-Est ?
Tout à fait. On est dans une logique de rééquilibrage territorial avec des disparités de développement, des inégalités de développement socio-spatiales classiques, avec des régions mal pourvues, assez enclavées, et dans lesquelles l'État central, l'État parti, investit massivement, y compris en termes de réflexion stratégique, à rééquilibrer ces territoires pour être pleinement maître de l'ensemble du territoire de cette Chine, aussi bien au nord, au sud qu'à l'est, à l'ouest.
Parce que pour bien comprendre, le développement de la Chine s'est fait principalement sur la côte est, et aujourd'hui oui. Il y a cette volonté de rééquilibrage. En effet, la Chine qui cherche à changer son image auprès des pays d'Asie du Sud-Est, afin de ne plus être considérée comme une menace, mais plutôt comme une opportunité, Emmanuel Linco.
Oui, et on le voit dans les débats et les conflits mémoriels qui opposent notamment le Japon, grand rival jusqu'à récemment de la Chine d'un point de vue stratégique à l'Asie du Sud-Est. La Chine était une sorte de caution pour ces pays et une sorte de référence, était liée aussi à une forme de solidarité idéologique tiers-mondiste, si vous voulez. Mais clairement, même s'il y a là une volonté de sécuriser donc sur son flanc méridional ses intérêts proches, il y a ensuite d'emblée, je dirais, une résistance qui nous vient d'un certain état délétère de l'Asie centrale, qui est une région chrysogène, et on y reviendra sûrement, et qui met à mal peut-être la pérennité du projet des nouvelles routes de la soie par rapport au terrorisme international, mais aussi dans le prolongement même de l'Asie du Sud-Est, l'Inde, qui est le grand autre et rival potentiel, évidemment, de la Chine.
Alors on va voir qu'en effet, la Chine cherche aujourd'hui à se présenter en Asie du Sud-Est comme une alternative au Japon, et peut-être à un niveau plus global, comme une alternative aux États-Unis. Intéressons-nous au projet des nouvelles routes de la soie qui a été lancé officiellement en 2013 et donc un an après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. C'est un projet qui est intrinsèquement lié à la vision politique et économique du président Xi, Emmanuel Véran.
Oui, on peut l'évoquer de cette manière. Il y a un lien en fait très très subtil entre la politique intérieure chinoise, son économie, son modèle financier, ses dépendances au marché européen, nord-américain, etc. Puisque c'est un modèle qui est voué à l'export depuis 20 ans, 30 ans, et qui, au lendemain de la crise internationale de 2008-9, a complètement rebattu les cartes stratégiques de son commerce international et donc de sa diplomatie. Et à partir de 2013, Xi Jinping lance ce programme des routes de la soie terrestres, en l'initiant avec un discours au Kazakhstan, puis maritime avec un autre discours à Jakarta en Indonésie, pour faire le lien entre relance de l'économie, l'appareil productif et industriel chinois et vision stratégique globale. On est véritablement le lien entre les deux.
Et en l'occurrence, cette vision stratégique globale passe par la puissance maritime et notamment par la maîtrise des ports, Emmanuel Linco.
Oui, et vous avez là finalement une sorte de copier-coller de ce que faisaient entre autres les Britanniques au XIXe siècle. D'ailleurs, c'est la grande référence subliminale des autorités chinoises, une logique de comptoir, à laquelle d'ailleurs répondent d'une manière ou d'une autre les Indiens et leurs alliés plus ou moins lointains mais sûrs, comme la France, qui s'est rangé clairement au vu des options stratégiques indiennes contre la Chine. C'est-à-dire, donc, vous avez bien sûr le port de Sitwe en Birmanie, le port de Gwadar dont on parle tant au Pakistan, qui sont des ports à vocation civile, mais qui pourraient être transformés en objectifs militaires.
Et plus proche de nous, le port du Birée en Grèce.
Absolument. Absolument.
Et alors justement, est-ce que cela pose un certain nombre de questions? En Europe, il y a des divisions entre ceux qui estiment que c'est une opportunité et ceux qui se méfient peut-être de ce qui est vu comme une ambition hégémonique, Emmanuel Véran.
Oui, l'objet Chine, politiquement, économiquement, fait vraiment figure de fragmentation au sein de l'Union européenne, au sein des 28 ou des 28 moins 1 États membres, à savoir qu'on aurait d'un côté des opportunités chinoises du fait de ses capitaux colossaux et de ses investissements et de ses, quelque part, capacités de développement à fournir des infrastructures. Je pense notamment à ces pays méditerranéens, Europe, Italie, Espagne, voire d'Europe de l'Est. Et puis il y a un autre bord européen qui est de plus en plus sceptique, qui réfléchit de plus en plus à 15-20 ans de transfert de techno, de propriété intellectuelle, de statut très particulier dérogatoire de la Chine vis-à-vis des règles de l'OMC qu'elle a intégrées en 2001. Et donc commence à entrevoir une nouvelle façon d'accueillir l'objet chinois au sens des investissements, de la politique et de l'économie.
Cela pose un certain nombre de questions à Emmanuel Linco, sachant que c'est une stratégie qui est également ferroviaire. L'objectif, c'est notamment de rallier l'Europe depuis la Chine le plus rapidement possible. Il y a eu un très grand investissement sur les questions ferroviaires.
Absolument, qui relie notamment Duisbourg en Allemagne au Sichuan et à Chengdu en particulier, sa capitale. Mais vous avez d'autres projets connexes qui sont déjà aussi mis en œuvre. Je pense par exemple au réseau ferroviaire qui relie à présent l'Iran via l'Asie centrale à la Chine. Donc vous avez un train Téhéran-Xi'an chaque semaine. Alors ça c'est un projet global, mais pour revenir effectivement à ce que l'on peut percevoir réellement comme une menace chinoise par rapport à l'Union européenne, la Chine, de ce point de vue-là, semble avoir une stratégie assez comparable à celle de la Russie. Et d'ailleurs, on a vraiment le sentiment que la Russie et la Chine s'échinent à vouloir diviser les Européens entre eux. Et donc vous avez clairement une Europe faillie et une Europe qui se range au vu de plus en plus de cet axe Moscou-Pékin et puis l'autre Europe dont nous sommes.
Et alors ces nouvelles routes commerciales permettent aussi à la Chine de construire des alliances avec les 68 pays dans lesquels elle investit, des alliances dans le domaine énergétique, notamment Emmanuel Véron.
Complètement. Là, il faut, je crois, rappeler que la Chine, c'est 1,5 milliard, grosso modo, d'êtres humains, donc qui mangent comme ils n'ont jamais mangé, qui consomment comme ils n'ont jamais consommé. Et donc ça nécessite à la politique chinoise un réajustement de ses approvisionnements.
Alors même qu'elle dispose de ressources énergétiques déjà très importantes.
Importantes, mais insuffisantes au regard de la consommation intérieure en matières premières, que ce soit des hydrocarbures ou que ce soit des terres cultivables, tout simplement. Et donc elle a mis en place, déjà depuis une vingtaine d'années, donc en amont du projet des routes de la soie de Xi Jinping de 2013, elle a mis une politique en amont de cela, d'approvisionnement, de sécurisation des approvisionnements énergétiques, gaziers, pétrole, de diversification des acteurs étatiques, d'où viennent ces richesses, et également de diversification, si vous voulez, en termes géographiques, pour ne pas être uniquement dépendante du Moyen-Orient, du pétrole, du gaz saoudien, qatari, etc., du Golfe Persique, mais également renouer des liens avec la Russie, ces immenses champs gaziers pétroliers, de terre, de bois, etc., mais également avec l'Asie centrale, Turkménistan, Kazakhstan, gisements de la mer Caspienne, en passant par des États tampons, on pourrait dire, comme l'Ouzbékistan, par lesquels donc transitent ces oléoducs, ces gazoducs directement en Chine, ce qui permet là aussi de faire le lien entre politique intérieure chinoise, des régions ouïghours du Grand Ouest, et géopolitique avec l'Asie centrale et l'ouverture sur l'Iran.
Et alors quelle est sa stratégie? La Chine construit des infrastructures dans les pays qui disposent de ressources énergétiques?
La Chine investit massivement à travers des grandes entreprises d'État qui sont directement reliées aux intérêts stratégiques vitaux, comme ça qu'on dit, nationaux, à travers des grands groupes pétroliers gaziers. On pourrait citer la CNPC, PetroChina, la CNOOC, qui s'occupe des affaires de pétrole et de gaz offshore, investit massivement, joue d'une diplomatie bilatérale dans des cadres multilatéraux. Je pense par exemple à l'Organisation de coopération de Shanghai, où la Chine instrumentalise un ensemble d'acteurs étatiques avec des ressources importantes, etc., mais jouera en bilatéral de capital à capital pour négocier de manière stricte l'approvisionnement en gaz, en matières premières, directement en Chine.
Vous l'avez dit, Emmanuel Véron, la Chine a des besoins énergétiques considérables et tout l'enjeu pour elle consiste à sécuriser ses approvisionnements. Écoutons l'économiste Jean-Marie Chevalier au micro de Florian Delorme sur France Culture le 19 septembre 2012.
La Chine, c'est la frénésie de la croissance. Et ce qui est amusant, c'est que tout Chinois rêve de conduire une voiture. Donc ça, c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour la demande de pétrole. Et donc, pour les Chinois, c'est une obsession d'avoir accès à des ressources pétrolières. Donc, je dirais que dans tout endroit du monde où il y a du pétrole, les Chinois sont là. Est prêt à proposer des contrats beaucoup plus globaux qui enrobent non seulement les ressources minières, mais des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, etc. Là-dessus, la Chine est vulnérable parce qu'elle est approvisionnée à 90% par la mer de Chine, par les tankers qui arrivent en mer de Chine. Et donc, en cas de conflit grave avec les États-Unis, par exemple, il y a une vulnérabilité effroyable. Et puis, en plus, ce pétrole qui arrive en Chine, une grande partie passe par Malacca, le détroit de Malacca, et une grande partie par Hormuz, le détroit d'Hormuz. Donc, deux endroits qui sont des choke points, qui sont très vulnérables.
Des choke points, des goulots d'étranglement. Les nouvelles routes de la soie constituent donc un moyen pour la Chine de remédier à sa vulnérabilité sur le plan énergétique, Emmanuel Véran ?
Complètement, et si vous voulez, si on remonte 10 ou 15 ans en arrière, la cartographie actuelle des routes de la soie maritimes, quand on regarde l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Océan Indien, et puis l'ouverture sur l'Afrique et le Moyen-Orient avant d'arriver sur la Méditerranée, correspond pratiquement en totalité à la cartographie dressée par les services américains de sécurité à travers le fameux collier de perles, où la Chine manifeste une forme de présence duale, civile et militaire, commercial et éventuellement militaire, je dis bien éventuellement, en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud, pour, si vous voulez, doubler les routes commerciales d'une présence chinoise infrastructurelle et réduire le niveau de dépendance de ces fameux choke points, comme on vient d'entendre, ces détroits, de ces goulets d'étranglement qui correspondent à Hormuz, qui correspondent à Malacca. On pourrait citer Bab el-Mandeb, Djibouti, on va y revenir peut-être tout à l'heure, et avant d'ouvrir sur la Méditerranée avec Gibraltar ou Suez.
Il faut dire que 60%, plus de 60% du pétrole consommé par la Chine provient de l'étranger, donc c'est un enjeu extrêmement important qui nécessite toute une diplomatie pétrolière, Emmanuel Linco.
Oui, et le dilemme de Malacca qui vient d'être mentionné, la Chine y répond justement par l'aménagement d'autres axes névralgiques, stratégiques. Je pense à l'axe qui relie le sud-ouest de la Chine, donc notamment sa province du Sichuan, au golfe du Bengale via l'Irrawaddy, donc le Myanmar, avec lequel d'ailleurs, chose très intéressante et révélatrice, quel que soit le régime du Myanmar, la junte militaire hier ou Aung San Suu Kyi aujourd'hui, la Chine a toujours entretenu, c'est un continuum historique des relations de proximité pour pérenniser justement ses intérêts. Et quand vous regardez sur la carte, évidemment, la Birmanie se trouve en amont de Malacca. Et puis l'autre axe qui est important, et ce surtout depuis la visite en avril 2015 de Xi Jinping à Islamabad, la capitale du Pakistan, c'est la constitution d'un corridor stratégique, c'est ainsi qu'il est nommé, qui relie donc le sud-ouest de la province ouïghour du Xinjiang via Kashgar, l'une de ses anciennes capitales, à Gwadar, dont on a parlé, et qui est une façon précisément de créer d'autres circuits d'approvisionnement. Et enfin, le dernier circuit d'approvisionnement qu'on a mentionné, c'est le couloir eurasien, mais qui, lui, quelque part, pose des problèmes en termes de rentabilité économique par rapport aux fret maritimes, et puis par rapport à la situation sécuritaire, justement, de ce très vaste espace. C'est-à-dire que, à l'exception notable de l'Ouzbékistan, qui est la clé de voûte du dispositif diplomatique chinois en Asie centrale, et du Kazakhstan, qui sont sans doute les deux États les mieux portants parmi les anciennes républiques soviétiques de l'Asie centrale, tous les autres sont des États faillis ou à problème ou au bord, je dirais, de la guerre civile, je pense au Tadjikistan en particulier, gangrénés par les problèmes de terrorisme, de narcotrafic, etc. De même que le Pakistan, d'ailleurs, qui n'échappe pas à cette règle. Hein. On sait, il y a quelques mois, vous vous en souvenez, que le consulat chinois de Karachi a été plastiqué tout de même.
Et que, c'est-à-dire
C'est-à-dire que ces ressortissants et le consulat même de Chine ont été violentés. Pourquoi ? Parce que la présence chinoise est contestée. Elle l'est aussi dans la province voisine du Sindh que l'on appelle le Baloutchistan, où trois ans plus tôt, deux ressortissants chinois avaient été assassinés. Donc clairement, ça ne va pas être simple, effectivement, pour le projet de Xi Jinping, qui est d'ailleurs, on le sait, au sein même du Politburo, contesté.
Alors justement, ces contestations qui interviennent et qu'on peut constater au Pakistan, est-ce qu'on les constate ailleurs dans la région ? Est-ce que c'est d'abord lié à des questions de souveraineté ou est-ce que c'est lié à des questions économiques où finalement un certain nombre de pays verraient qu'ils n'y trouvent pas leur compte dans ces nouveaux partenariats ? Emmanuel Véron.
On les constate, pour le dire de manière triviale, partout. La question après de hiérarchiser le sentiment anti-chinois ou, si vous voulez, les plaintes ou les contradictions qu'il peut y avoir entre la diplomatie économique chinoise et comment cette diplomatie est accueillie dans le pays partenaire. Je reviens une seconde sur les attentats. En fait, il est bien question de cela, en fait, d'attentats visant des intérêts chinois, des personnes, des ambassades, etc. Il y en a à peu près un tous les trois mois. Entre le Pakistan, l'Asie centrale et éventuellement d'autres régions du monde, et qui aussi peuvent se manifester d'autres manières, ces ressentiments anti-chinois, sur ce qui a été évoqué notamment depuis quelques mois, hein, depuis l'été 2018, par Christine Lagarde et le Fonds monétaire international, de la debt trap diplomacy, la diplomatie du piège de la dette, où à travers ces gigantesques projets où la Chine apporte du développement, c'est tout son vocable, infrastructures, hôpitaux, etc., etc. Finalement, elle contraint le pays partenaire à un niveau d'endettement colossal. Ça va jusqu'à parfois 80-90% de dette du PIB. Je pense au Sri Lanka, je pense à Djibouti. C'est le cas dans une certaine mesure du Pakistan et de la plupart des pays avec lesquels la Chine traite. Ça permet à la Chine de les tenir. Que les opinions nationales sri-lankaises, pakistanaises soient pas d'accord, ça c'est une autre affaire.
Mmh. On va voir que ces questions d'endettement posent de plus en plus problèmes et sont de plus en plus critiquées aussi par le FMI, par les pays occidentaux. Et on va voir également que la puissance chinoise se déploie également beaucoup plus loin de son territoire, comme le montre l'exemple de l'Afrique. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini. A truer sight of King lay dying in Shanghai. A comet tracing through the sky. Chairman Mao heard thunder in the dawn. The old gods come and gone, and underneath our world's a drone.
And every now and then I see somebody's face.
Deng Xiaoping du groupe Brazzaville. Nous poursuivons notre discussion sur les nouvelles voies de la puissance chinoise en compagnie d'Emmanuel Linco et d'Emmanuel Véron. Alors parlons justement de cette présence chinoise en Afrique, autour de laquelle il y a beaucoup de fantasmes. Quelle est la réalité aujourd'hui de cette présence, Emmanuel Véron, et en quoi consiste la stratégie chinoise en Afrique ?
Donc la stratégie chinoise en Afrique, on pourrait dire, remonte au milieu des années 90, voire avant, mais je vais d'abord évoquer cette milieu des décennies 90 qui correspond à un temps de rupture pour la politique internationale chinoise, de la fin de sa dépendance, de son indépendance en matières premières, et donc va commencer à réfléchir à diversifier ses marchés et ses approvisionnements en hydrocarbures, et va avoir dans son scope, dans son horizon stratégique, l'Afrique. Et donc va progressivement reprendre contact avec un certain nombre d'États en Afrique subsaharienne pour avoir une prospection pétrolière. Ce sera notamment le cas de l'Angola, ce sera notamment le cas dans le golfe de Guinée avec le Nigeria, etc. Si on regarde l'histoire contemporaine que l'on évoquait tout à l'heure à travers les logiques de tiers-mondisme, en fait la Chine avait déjà des contacts. Il y avait déjà une politique africaine à travers Mao qui s'est largement appuyer sur les nouveaux pays indépendants, fraîchement indépendants africains, pour avoir une stature diplomatique, une stature internationale. C'est toute la logique de l'ONU, de la reconnaissance de la République populaire de Chine à l'ONU en évinçant Taïwan et en ayant finalement des soutiens politiques. Ça, c'est la première strate, si j'ose dire, diplomatique et politique. La deuxième est celle de la frénésie économique, la frénésie de la nouvelle diaspora chinoise en Afrique depuis grosso modo une vingtaine d'années, qui entretient des liens intenses avec la plupart des pays africains. C'est-à-dire qu'on est au-dessus de 50, 53, 54 pays africains d'une présence diplomatique, économique, humaine, diasporique, culturelle également, sur lesquels on va revenir, je pense.
Et alors comment expliquer justement que la présence chinoise en Afrique suscite autant de fantasmes autour d'un éventuel néocolonialisme de la part de la Chine ? Qu'est-ce que vous en pensez, à Emmanuel Linco ?
En fait, c'est, j'irais, comme disait l'autre, le choc des cultures, hein, et un choc mémoriel aussi. C'est-à-dire que pour ce qui concerne l'Afrique francophone, bah Paris, évidemment, voit ça avec une certaine suspicion, voire un certain agacement, sans avoir les moyens, évidemment, de sa politique. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler, effectivement, cette ancienneté de la relation Chine-Afrique, sans remonter à la Renaissance. Hein, il y a effectivement des antériorités importantes. Alors, celle de l'intégration de la République populaire de Chine aux dépens de Taïwan a été mentionné par Emmanuel Véron, mais vous en avez une autre, c'est le soutien aussi de la plupart des potentats africains à la Chine à la suite du boycott occidental contre la Chine après Tiananmen, après les représailles de Tiananmen.
Donc ça a renforcé les liens à ce moment-là.
Ça a renforcé les liens, absolument. Et puis, au niveau des chiffres, alors, très concrètement, en Afrique subsaharienne, je n'ai pas les chiffres. En revanche, il y a une donnée très générale que je trouve tout à fait intéressante qui nous avait été donnée par Mathieu Duchâtel, l'un de nos confrères de l'ECFR. C'était de rappeler que au début des années 80, vous n'aviez que 200 000 ressortissants chinois de par le monde. En 2015, ils étaient déjà 125 millions. Donc, ça légitime évidemment une action diplomatique africaine de la Chine en Afrique, qui est corroborée en fait par ce fait, c'est-à-dire que vous avez des ressortissants, vous devez les protéger, il y a des intérêts chinois. Le grand exemple tout à fait illustratif de cela, de cette ingérence chinoise, et qui est un prélude d'ailleurs à l'installation durable de la Chine dans sa base militaire de Djibouti, c'est l'exfiltration de ressortissants chinois de Libye en 2011, et qui a montré la capacité de la Chine justement à conduire des opérations de ce type bien au-delà de son périmètre sécuritaire, je dirais, qu'on lui connaissait jusqu'alors. Et ça sera de plus en plus une tendance lourde, d'où la coopération également de la Chine avec les Afriques d'une manière générale, y compris dans le domaine de la surveillance satellitaire, pour juguler les maquis terroristes, Boko Haram ou autres, par rapport au Nigeria notamment.
Donc on voit bien effectivement tout l'intérêt que la Chine peut trouver dans le fait de s'investir sur le continent africain, et notamment le fait que l'Afrique représente aujourd'hui un marché de 900 millions de personnes, et la prévision c'est qu'ils seront 2 milliards en 2050. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quels sont les effets de cette présence, de ces investissements chinois sur les pays africains. Emmanuel Véron, est-ce qu'il y a aujourd'hui une tendance dans certains pays d'Afrique à se méfier davantage de ces investissements chinois?
La Chine est très, très, comment dirais-je, attentive à la réaction des États africains. Un autre chiffre en complément de la diplomatie Chine-Afrique, c'est le nombre de pays africains reconnaissant Taïwan comme étant la Chine. Il n'y en a plus qu'un seul aujourd'hui, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Swaziland, donc enclave territoriale dans la partie Afrique australe. Il y a une dizaine d'années, on était à autour de 7-10 pays africains, et il y a 20 ou 30 ans, on était autour de à peu près 20-25 pays sur le continent africain. Donc on a cet effort diplomatique intense, très puissant, très structurant, d'État à État avec les élites africaines, qui elles trouvent dans la Chine une autre voie dans un supposé monde multipolaire que l'Occident. Bien évidemment, de quoi voyager, des émoluments confortables, etc., etc. Ce qui permet à la diplomatie pour le moment, à la diplomatie chinoise de tenir. Quand on regarde à une strate inférieure, les opinions. Les populations africaines jeunes, vous l'avez rappelé, avec la trajectoire démographique d'ici 20 à 30 ans, la Chine est relativement inquiète par rapport à ça, et donc prépare toute une stratégie sécuritaire pour anticiper des éventuels effets, y compris de ses intérêts sur le continent, mais y compris de logique africaine en direction de la Chine. Quand on regarde un autre volet maintenant, qui est celui de l'économie, que l'on évoquait tout à l'heure, 15 ans à 20 ans de diplomatie économique infrastructurelle chinoise dans la plupart des pays du continent africain se traduisent aujourd'hui par des stades, par des hôpitaux, par des routes, par de gigantesques contrats colossaux, parfois suspects, bizarres, etc., vides. Mais dans les faits, ces infrastructures qui satisfassent, si vous voulez, les élites africaines, une partie des élites africaines ou des États, se traduisent par la dette colossale que les États africains contractent auprès de la Chine. Et donc, on a cette convoitise, ces courtoisies réciproques entre chacun des pays membres, et donc une grande asymétrie d'un pays africain avec la Chine.
Justement, sur cette question de la dette, j'aimerais vous faire entendre le point de vue de Jacques Gravereau, le président d'honneur de l'Institut HEC Eurasia. Il était au micro de Florian Delorme le 14 novembre 2017.
Les routes de la soie, c'est principalement des prêts. C'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent à un certain nombre de pays. Et s'agissant de pays pauvres, ça peut d'ailleurs poser des problèmes de dépendance considérables. Je prends juste un exemple. Au Kenya, les Chinois viennent de construire pour 3 milliards de dollars le train entre Nairobi et Mombasa. C'est un projet de 3 milliards de dollars qui est un projet extraordinairement cher, extraordinairement peu rentable, et c'est 90% des prêts au gouvernement kényan. Le gouvernement kényan va-t-il pouvoir rembourser ces prêts? Pas du tout sûr, c'est déjà un pays en quasi-faillite. Donc, vous refaites la même chose au Kazakhstan, qui est un pays pauvre, etc., etc., ça peut créer des situations de dépendance. Donc, c'est pas un don gracieux que les Chinois font au reste du monde. C'est des projets dont les Chinois estiment qu'ils seront rentables.
Il y a à la fois un risque de dépendance et un risque d'endettement critique pour certains pays africains, mais aussi asiatiques. Emmanuel Linco.
Oui, c'est la relation du maître et de l'esclave qu'exprime Hegel. Hein. Vous savez, l'esclave devient en fait le maître de son maître, quelque part. Enfin, il y a une sorte de retournement dialectique qui est tout à fait intéressant, mais qui à terme peut se retourner effectivement contre les intérêts chinois. Et pour le peu d'informations que l'on ait sur ce régime très opaque qu'est l'État parti communiste chinois, il y a des critiques, et ce depuis le 19e congrès du Parti communiste chinois l'année dernière. Pourquoi? Parce que manifestement c'est un projet que seul Xi Jinping porte, qui est un projet fragilisé par la conjoncture mondiale, par les mesures de rétorsion très fortes qui sont prises aussi par Donald Trump, hein, c'est-à-dire que géopolitiquement parlant, la Chine n'est pas seule, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a au moins ce grand hôte que sont les États-Unis qui progressivement mettent le haut là, hein, et c'est-à-dire que les lignes jaunes qui jusqu'alors n'existaient pas ou peu, Barack Obama avait déjà esquissé une sorte de contre-politique.
Sa stratégie à lui, c'était plutôt de se rapprocher d'un certain nombre de pays asiatiques.
Oui, c'était l'axe pivot stratégique constitué par l'Asie du Sud-Est, hein, mais on sent manifestement que la politique de Trump fait ses effets en Chine, c'est-à-dire que l'économie chinoise est en récession. Il y a tous ces problèmes, effectivement, qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire donc l'impossibilité peut-être pour les pays directement visés par ces infrastructures chinoises de rembourser leurs dettes in fine. Et clairement, des voix s'élèvent courageusement au sein du Politburo pour dire mais quand est-ce qu'on sera remboursé ou I want my money back, comme disait l'autre, n'est-ce pas?
Ça pourrait se retourner contre la Chine, selon vous, Emmanuel Véron. Et est-ce que, du coup, il faut s'attendre, avec les contestations dont parle Emmanuel Linco, à un changement de stratégie de la part de Pékin?
Il est fort probable que, et c'est tout à fait en fait dans le modus operandi chinois, on lance un grand plan qui est relativement opaque, pas très précis, et c'est volontaire. Ça permet de faire des ajustements entre-temps, au moment où vous avez besoin de faire telle ou telle concession ou de faire telle ou telle avancée avec votre partenaire ou vos partenaires. Et donc on avance comme ça, si vous voulez, et finalement on peut resituer ça plus globalement dans le système international actuel, où Emmanuel Linco l'a rappelé très justement sur les capacités américaines actuelles en termes de guerre économique, en termes de guerre commerciale, de guerre informationnelle, sans mobiliser la dimension hard power au sens strict du terme, hein, on est plutôt dans des aspects financiers, économiques et informationnels, vis-à-vis de la montée en puissance de la Chine.
Donc la guerre commerciale est une réponse américaine aux nouvelles routes de la soie. Vous.
C'est un des aspects du spectre du rapport de force durable entre les États-Unis et la Chine pour les 20-30 prochaines années.
Et alors justement, ça pose des questions, et notamment le fait que les investissements diminuent, les investissements chinois en Afrique diminuent. Est-ce que c'est lié aussi à ces contestations, Emmanuel Linco, ou est-ce que c'est davantage relié aux difficultés que traversent un certain nombre de pays africains sur le plan économique?
Je pense a priori que c'est lié aussi à un changement de paradigme économique en Chine, c'est-à-dire que l'économie chinoise se restructure autour de pôles prioritaires et d'excellence, que sont les nouvelles technologies et la technologie du numérique en particulier. Et donc, de ce point de vue-là, la collaboration avec les États-Unis et surtout l'Union européenne reste absolument vitale pour le régime chinois. Et donc, clairement, Américains et Européens ont évidemment des cartes majeures entre les mains de ce point de vue-là. Mais je dirais aussi que vous avez très certainement une volonté pour la Chine peut-être de se recentrer effectivement sur des aspects qui sont les siens, c'est-à-dire que, disons que sur le temps long, effectivement, il y a à chaque fois une velléité de déploiement et ensuite, sinon de recul, de recentrage effectivement de la Chine et de ses propres intérêts. Et j'ai vraiment le sentiment que ce qui compte avant tout, c'est la priorité, le développement encore du Grand Ouest, parce qu'effectivement tout est à faire, ou presque, dans des régions vraiment pauvres, hein, telles que le Guizhou ou bien l'extrême ouest du Sichuan. Et donc le projet des routes de la soie y répond partiellement. C'est un projet global et local, mais qui concerne essentiellement ces régions du Grand Ouest chinois. Et puis, vous avez une autre priorité pour les autorités chinoises, c'est d'essayer de tenir très certainement une population qui, dans les faits, est de plus en plus fragmentée, individualisée dans ses désirs de consommation, voire même de revendications. On le voit sur les marges de la Chine, il y a des revendications identitaires, politiques, même parfois de plus en plus fortes.
Notamment les Ouïghours dans le Xinjiang.
Notamment les Ouïghours, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi les diasporas chinoises, et je me demande même si ce soft power chinois, que l'on pourrait qualifier autrement d'ailleurs de sharp power, qui est beaucoup plus incisif, est destiné peut-être...
Sharp, pointu en anglais.
Pointu, voilà, intrusif, davantage destiné a priori aux diasporas chinoises et peut-être moins aux occidentaux, qui finalement de toute façon ont une image très dépréciative de la Chine étant donné son régime dictatorial. Donc clairement les occidentaux ne sont pas dupes des intérêts stratégiques chinois. En revanche, tenir la diaspora chinoise, c'est peut-être un pari
justement,
des autorités.
Parlons-en de ce soft power. Les nouvelles routes de la soie apparaissent aussi comme un moyen pour la Chine d'exporter son modèle culturel. Alors ce que vous dites à Emmanuel Linco, c'est que c'est en direction davantage des diasporas chinoises. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée, en direction de l'Occident, de promouvoir un modèle, des valeurs, avec cette idée que la Chine aurait des valeurs universelles à transmettre, Emmanuel Véron?
Oui, alors c'est l'action en fait historique du bureau de liaison du Parti communiste international, du bureau international, pardon, du PC, du Parti communiste, donc là, en l'occurrence Parti communiste chinois, qui entretient des liens diplomatiques avec à peu près tous les partis politiques, au premier rang desquels les partis communistes du monde entier. C'est une image assez intéressante. Et puis d'autres partis politiques, et là, on n'est pas regardant sur la couleur de l'appartenance politique, tout à fait. Ça permet d'avoir de l'entregent, ça permet d'aller jusque dans de la compromission, ça permet d'entretenir des liens politiques et diplomatiques de grande proximité d'État à État. Et sur la scène internationale, on n'a aucun pays qui n'est épargné par ça. Et ce qui est l'autre aspect de l'ascension chinoise, son intelligence stratégique dans les faits. L'autre volet est celui des opinions, de rendre la Chine populaire, de faire aimer la Chine. Et là, on a les inénarrables instituts Confucius, entre 500, 600 instituts répartis dans le monde.
Le premier a été créé à Samarcande, ce qui est...
Oui,
qui n'est pas anodin.
Voilà. Asie centrale.
Emmanuel Linco.
Oui, c'est important parce qu'on rappelait tout à l'heure que l'Ouzbékistan est la clé de voûte justement du dispositif post-guerre froide, hein, c'est-à-dire que ce premier institut a été créé en 2004. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un autre domaine sécuritaire, celui-ci, c'est à Tashkent, donc capitale cette fois-ci de l'Ouzbékistan, qui a été créé le bureau de renseignement des pays membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc, effectivement, il y a une volonté à la fois institutionnelle d'affirmer une présence, mais on le sait par ailleurs, en termes de comparaison par rapport à l'impact psychologique que peut avoir le soft power sud-coréen ou japonais auprès des jeunes français, toutes les initiatives chinoises sont donc un échec. C'est beaucoup moins vrai, et justement, il faut avoir une perception nuancée des initiatives diplomatiques, culturelles ou de propagande, appelons-les ainsi, d'où le sharp power vis-à-vis des pays du tiers-monde, où là, effectivement, la Chine réussit à séduire bien davantage les élites. Mais du côté français, non, il faut s'en réjouir.
Comment expliquer cet échec du soft power, Emmanuel Véron, soft power qui passe aussi par l'installation de camps d'universités chinois à l'étranger, je pense en particulier au Laos, qui était une première en 2012.
Oui, alors effectivement, donc c'est un échec partiel de cette affaire de soft power, parce que échec dans une dimension, je dirais, occidentale, quasi romantique, qui aurait une vision de la Chine culturelle, ouverte, souple, littéraire, qui est finalement assez éloignée des froideurs du régime. En revanche, dans le système international actuel, effectivement, on a un certain succès de ce... en partie de ce soft power à travers les instituts Confucius ou les différentes formes de campus d'apprentissage du chinois, de toutes les activités bien quadrillées, bien cadrées de la culture chinoise, que ce soit les arts martiaux, papier découpé, des chants, etc. etc. En particulier en Afrique. On n'a jamais eu autant une jeunesse africaine qui est inscrite dans ces infrastructures chinoises de République populaire, de Pékin, Institut Confucius ou autre, donc des millions de jeunes africains qui apprennent le chinois aujourd'hui, idem de millions répartis entre Asie du Sud-Est, le Laos que vous avez mentionné, Asie centrale, Iran, dans une moindre mesure Amérique latine, je pense à la situation du Venezuela, mais également dans une certaine mesure du Brésil, affaire à suivre, et également du Moyen-Orient.
Parce que l'objectif de Xi Jinping, il l'a encore rappelé en octobre 2017, lors du 19e congrès du Parti communiste chinois, c'est de promouvoir le rêve chinois. C'est un pied de nez au rêve américain, Emmanuel Linco.
Oui, c'est une façon effectivement pas très originale de forger une expression que souvent d'ailleurs les Chinois ont raillé, parce que le rêve chinois nous renvoie par ailleurs à un chef-d'œuvre de la littérature chinoise qui est le rêve dans le pavillon rouge, qui est un chef-d'œuvre de l'érotisme chinois de surcroît. Donc vous pouvez imaginer évidemment que des voix dissidentes se sont élevées à cette occasion. Bon, c'est une façon de créer effectivement une alternative, un contre-modèle, et c'est un mix improbable effectivement entre des référents tiers-mondistes qu'on a mentionné tout à l'heure, Une volonté également de s'affirmer comme dictature éclairée et fière de l'être. Alors ça, c'est aussi intéressant et c'est en cela que réside le défi intellectuel chinois, parce que on a un régime qui contredit tous les préjugés que nous avions hérités depuis au moins la fin de la guerre froide, selon lesquels il fallait d'abord se démocratiser pour ensuite se développer économiquement. Eh bien, la Chine est en train de montrer le contraire. On se développe parce qu'on est une dictature, précisément. Et ça, c'est évidemment extrêmement dérangeant d'un point de vue des catégories, et cela conforte nombre de potentats africains, notamment dans leur choix. Il y a clairement un modèle chinois qui s'est établi, mais pour combien de temps encore? Parce que, dans les faits, c'est un régime, on le sait bien, odieux par les résultats que l'on sait, notamment dans la politique de répression menée par Pékin contre, entre autres, sa minorité ouïghour ou tibétaine.
Et la question qui se pose, en effet, et on arrive presque au terme de cette émission, mais c'est de savoir si la Chine cherche véritablement à exporter un modèle politique, idéologique, et quel succès elle pourrait avoir. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter du côté des démocraties libérales occidentales?
Elle le cherche pour asseoir sa puissance. Retrouver ce que l'on entend souvent, sa place qui est la sienne, je ne sais pas véritablement ce que sa place était au 19e siècle, dans un monde qui n'était pas globalisé comme aujourd'hui, en tout cas grande puissance certes, mais en Asie, mais pas internationalisée, globalisée, et encore moins ouverte sur le monde comme l'Europe latine occidentale a pu le faire à partir du 15e, 16e siècle, à travers les grandes découvertes marines. Donc c'est quelque chose de nouveau en fait, c'est un véritable défi pour elle-même. C'est la première fois que la Chine est aussi puissante, c'est la première fois que le monde connaît une Chine aussi puissante. Et une des clés de compréhension de cette ascension et de cette internationalisation résidera en partie, donc, comme vous l'avez dit, à travers les routes de la soie, terrestres, aériennes, maritimes, mais le volet numérique qui accompagnera chacune de ces routes, chacun de ces tracés, donc des technologies, de l'intelligence artificielle, des data centers, tout le volet, si vous voulez, technologique que la Chine maîtrise actuellement.
Et qui sera donc le prochain enjeu, selon vous, pour la Chine dans les années à venir?
Absolument.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffany, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les déclarations du président de la République concernant l'indépendance et le modèle économique des médias français.
Mais oui, une scène qui s'est produite il y a quelques jours à l'Élysée et qui aurait pu ne jamais sortir de l'enceinte du palais si l'un des journalistes triés sur le volet n'avait pas choisi de revenir sur la conversation à huis clos qu'il venait d'avoir avec le président de la République. C'est ainsi le journaliste du Point, Emmanuel Beretta, qui a décidé dans une vidéo intitulée « Élysée Confidential » de rendre compte de cette discussion avec Emmanuel Macron. Le président s'y est déclaré inquiet du statut de l'information et de la vérité dans notre pays, jugeant urgent de rétablir des tiers de confiance et une certaine hiérarchie des paroles entre les intervenants médiatiques. L'allusion est très claire, le président trouve scandaleux qu'on donne dans les médias la même place à un membre de son gouvernement et au tout venant. Ce fameux Jojo le gilet jaune qui aurait désormais le même statut qu'un ministre ou un député sur les plateaux de télé.
Le président de la République s'est également interrogé sur les manières de recrédibiliser les médias et de faire la part du vrai et du faux.
Exactement, des formulations qui posent elles-mêmes questions. On peut en effet se demander qui sera à même de séparer le vrai du faux, qui viendra dans sa grande sagesse départager le bon grain de l'ivraie et livrer au bon peuple français la vérité révélée. Mais le président de la République a semble-t-il une réponse, ce serait à l'État d'agir pour assurer cette neutralité. Le président aurait ainsi déclaré que l'information était un bien public se trouvant, je cite, sur BFM, LCI, TF1 ou ailleurs et qu'il fallait donc financer des structures pour assurer leur neutralité. Cette vérification de l'information pourrait ainsi venir des journalistes eux-mêmes au sein d'un dispositif financé par l'État. En réfléchissant tout haut à l'avenir des médias, le président de la République ne propose ici pas autre chose que des journalistes payés par le pouvoir pour vérifier la qualité de l'information diffusée par leurs propres confrères. Une conception de l'indépendance journalistique assujettie à une prétendue neutralité définie par le pouvoir qui a de quoi laisser pour le moins songeur.
La question du fonctionnement des médias se pose pourtant dans une période particulièrement difficile pour les médias et la presse en particulier.
Absolument, mais au lieu d'imaginer un dispositif de contrôle des médias par le pouvoir, le président aurait pu s'interroger sur les moyens d'assurer cette indépendance dans un contexte de concentration extrême de ces médias détenus par une poignée de milliardaires français. C'est d'ailleurs le cœur des travaux de l'économiste Julia Cagé qui proposait récemment de repenser intégralement la gouvernance et le modèle économique des médias pour leur assurer une plus grande indépendance et favoriser leur pérennité.
L'économiste propose ainsi de créer un nouveau statut, celui de société de médias à but non lucratif.
Exactement, une nouvelle entité juridique proche de la SCOP qui permettrait de favoriser l'apport de capitaux tout en encadrant le pouvoir décisionnaire des actionnaires. Au-delà d'un certain apport, les droits de vote progresseraient ainsi moins vite que le nombre d'actions détenues. Ce statut permettrait de lever des fonds pour que les médias soient financés et viables tout en garantissant un fonctionnement démocratique, empêchant la prise de pouvoir par des oligarques extérieurs. Si ce modèle est sujet à débat et ne concerne qu'une partie de la presse écrite, il permet néanmoins de s'atteler aux véritables dangers qui pèsent sur l'indépendance médiatique sans consentir à une reprise en main par le pouvoir souverain.
Merci beaucoup Arjuna et je me tourne maintenant vers vous Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternative Économique. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu avec le chiffre du jour, 318 euros.
Oui, c'est le salaire minimum mensuel à Shanghai actuellement. Il est supérieur au salaire minimum bulgare qui est de 286 euros. Et il est très proche désormais des niveaux qui prévalent dans la plupart des pays d'Europe centrale et orientale. Shanghai n'est pas toute la Chine et ailleurs les salaires restent encore inférieurs. Mais partout dans l'Empire du Milieu, ils montent très rapidement. Le salaire minimum à Shanghai a ainsi été multiplié par 4 depuis 2006.
Et malgré la hausse des salaires, la Chine réussit encore à exporter ?
Elle exporte encore beaucoup, mais surtout les Chinois se sont mis, grâce à cela, à consommer aussi beaucoup. Les exportations de biens et de services, qui représentaient 36% du PIB chinois en 2006, n'en pesaient plus que 20% en 2017. Et les importations ont doublé dans le même temps. Du coup, l'excédent de la balance courante chinoise, qui était de 10% du PIB en 2007, n'était plus que de 1,3% en 2017. La Chine a en réalité beaucoup plus rééquilibré son économie que l'Allemagne, dont les excédents extérieurs dépassent toujours 8% du PIB.
La Chine est donc de moins en moins l'usine du monde en réalité.
Oui, les multinationales ne délocalisent plus guère leur production ou leurs achats vers la Chine en vue d'exporter ailleurs. Quand elles y développent leurs activités, c'est désormais d'abord pour desservir un marché chinois en pleine expansion. La Chine a d'ores et déjà largement cessé d'exercer le dumping social à grande échelle qu'elle nous faisait subir depuis 25 ans, même si les surcapacités qui existent encore dans certains secteurs comme l'acier continuent de poser problème. Et sur ce terrain, la Chine n'est pas prête d'être remplacée. Il n'existe nulle part ailleurs dans le monde une armée de réserve de 1,3 milliard de personnes habitant dans un pays solide, capable de donner des gages de stabilité suffisants et de fournir les services indispensables à des multinationales. Le pire de la mondialisation dérégulée est probablement derrière nous maintenant.
Mais ce que l'on constate en réalité, Guillaume, c'est que de nouveaux problèmes apparaissent.
Oui. Parce que la nouvelle phase de développement chinois se traduit par l'apparition de multinationales chinoises. Celles-ci s'implantent partout, notamment en rachetant des firmes, comme cela a été le cas en Europe dernièrement, du fabricant automobile Volvo, du groupe PSA pour une bonne part, de Energias do Portugal, l'EDF GDF portugais, ou encore du port du Pirée à Athènes. Les liens étroits et opaques que ces firmes entretiennent le plus souvent avec l'État chinois posent des problèmes sérieux, comme on l'observe actuellement au sujet du fournisseur de réseaux et d'équipements téléphoniques Huawei, soupçonné d'espionner ses clients pour le compte de la Chine. De plus, l'absence de contraintes en matière de responsabilité sociale et environnementale que ne leur imposent pas l'État et la société chinoise, tout comme leur accès quasi illimité à un financement qui reste lui aussi dans les mains de l'État chinois, fausse largement la compétition avec les multinationales des pays occidentaux. Cela pourrait cependant avoir à terme des conséquences positives. Les multinationales européennes et américaines vont peut-être de ce fait devenir enfin demandeuses d'une régulation mondiale de leurs activités.
Thank you.
On se quitte sur Beijing Ballade de China Bossa. Merci beaucoup Emmanuel Véron et Emmanuel Linco d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée à l'espoir d'une sortie de crise dans la guerre commerciale qui oppose la Chine aux États-Unis. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.
Cette promenade en solitaire. Oh, ça c'est beau. Et je le prends en photo. Tiens, ça c'est mignon aussi. Click and go. Ah, voilà la plus vieille maison de thé de Pékin.